Si vous avez tendu l'oreille cette année, vous avez pu apprendre à me connaître, vous avez peut-être entendu des bribes de mon histoire et vous vous êtes peut-être reconnu dans certaines conversations. J'avais alors envie de prendre un peu de recul en cette fin d'année pour pouvoir apprécier et partager toutes les choses que j'ai pu apprendre au cours de ces échanges sur Healthwise. Dans cet esprit, et même si je suis seule au micro aujourd'hui, je n'ai nullement la prétention d'enseigner, mais plutôt la volonté de transmettre les différentes choses qui m'ont marquée au cours des 20 derniers échanges de ce podcast. Et si je me sens légitime de le faire, ce n'est pas parce que je suis devenue une experte, loin de là. Mon rôle ici, je le vois avant tout comme un pont entre vous et les invités. C'est ce que je dis souvent en plateau, moi sans formation médicale ou thérapeutique. Si je comprends ce que les experts et expertes me disent, c'est que tout le monde peut comprendre. Alors oui, tout le monde peut apprendre, mais même quand le cours est passionnant, c'est parfois bien utile qu'une camarade vous souffle quelques tuyaux pour qu'on ne passe à côté de rien. Dans cet épisode, je vais donc jouer la bonne élève qui a pris des notes et qui est là pour vous aider. Pour rendre tout ça hyper concret, j'ai synthétisé une seule chose que j'ai retenue par épisode. En tout, ce sont 20 leçons de santé que j'ai apprises et qui vous attendent. J'espère que le format sera aussi efficace qu'instructif. Et c'est ainsi que j'ouvre le bal avec le tout premier épisode de Healthwise avec Anne Nguyen sur les routines anti-fatigue et anti-stress. Et la chose qui m'a marquée avec cet épisode, c'est qu'il faut s'exposer à la lumière du soleil dès le réveil si on veut bien dormir. Alors pourquoi ça? On n'a pas forcément ça en tête d'ailleurs. Quand on se lève, mais notre corps dépend du rythme circadien. Et donc si on s'expose tôt à la lumière naturelle, on aide notre rythme circadien à se synchroniser sur le cycle jour-nuit, ce qui est crucial pour la production d'hormones du sommeil le soir. C'est donc la première étape pour s'assurer un sommeil de qualité. On écoute un extrait.
Le sommeil, ça se prépare dès le matin. C'est pas uniquement au moment du coucher. Je vais en parler après dans la routine du soir, mais le matin, la première chose qui est importante, c'est d'exposer ses yeux à la lumière naturelle, parce que notre corps, il est cyclique, il fonctionne avec un rythme circadien, jour-nuit, donc il faut bien lui signifier que c'est le début de la journée, et donc c'est cette lumière naturelle qui va donner les bonnes informations. Donc idéalement, on s'expose très vite, si on peut dans la première heure, au moins dans les deux premières heures du matin, à la lumière naturelle, donc on ouvre ses volets, on profite tout de suite. Même s'il n'y a pas de soleil, c'est quand même la lumière naturelle.
Le second épisode était avec la docteure Nathalie Georget qui abordait l'axe intestin-cerveau. Dans cet échange, on a pas mal parlé du microbiote au final. J'ai appris ici qu'on hérite du microbiote de notre mère, on le construit à travers notre hygiène de vie, mais il peut aussi s'adapter à notre environnement et à nos habitudes alimentaires. Retour sur cet extrait.
On a un microbiote qu'on hérite à notre naissance de celui de notre mère. Par le passage de la filière génitale. Et il va se construire avec une ambiance, des antibiotiques, du stress ou pas, un lait qui est équilibré, puis une alimentation qui va être méditerranéenne, si on vit près de la Méditerranée ou si les parents sont dans cette direction-là, ou des alimentations plutôt très saturées, mais ça peut être aussi la culture. Et certaines cultures ont des alimentations assez particulières et s'en sortent très bien. Mais c'est leur culture et c'est leur équilibre. Et ça donne un équilibre. Donc, tu as cité les firmicutes, Bacteroidetes. Voilà, on pourrait citer toute une sorte. C'est pas là le centre, je pense. C'est vraiment de dire il y a un équilibre. Et dans cet équilibre-là, si l'alimentation change, ça avait été observé sur des populations qui avaient une alimentation très saine et qui ont eu une industrialisation hyper rapide. Et on a vu exploser les diabètes, les cancers, les maladies auto-immunes de façon indirecte, mais c'est surtout tout ce qui était pathologie cardiovasculaire. Parce que d'un coup, les personnes se mettaient à prendre beaucoup de poids dans cette alimentation qui est, quand on parle du sucre ou des graisses saturées, on entend quelque chose... Bon, le sucre, c'est bon, mais dans le saturé, on entend quelque chose qui est déjà saturé. Ben, ce qui est saturé, c'est pas en mouvement. En gros, c'est des déchets pour le corps. Et qui dit déchets, ben, on va les manger et ça va devoir être éliminé. En tout cas, ça n'a pas apporté l'énergie nécessaire. Et quand ça va arriver, si ce n'est pas l'alimentation habituelle, donc c'était ces populations qui avaient des grands changements rapides, ça va créer des déséquilibres. C'est-à-dire ce qui est nourri à l'intérieur, cette magnifique flore avec ses milliards d'individus, des familles, c'est comme des peuples dans un pays où il y a plein de peuples différents. Mmh. Tant que c'est l'équilibre et qu'il n'y en a pas un qui se met à vouloir diriger le pays, ça va, quoi.
On change de sujet pour aborder le troisième épisode, les besoins nutritionnels des personnes hypersensibles avec Bénédicte Malecki. Dans cet épisode, j'ai appris que les personnes neuroatypiques pouvaient avoir des besoins spécifiques en alimentation et en micronutrition. Elles parlent de sucre, de graisse, de café, mais aussi de magnésium et des oméga-3 extraits.
Bonjour, vous êtes hypersensible, magnésium et oméga-3.
Oméga-3.
Parce que les oméga-3 sont trop peu présents dans notre alimentation moderne.
Générale.
Qui est très riche en oméga-6 et en oméga-9. On est carencé. Et notre fameuse gaine de myéline qui est plus épaisse. Les axones, ils ont besoin en fait d'oméga-3 pour rester souples. Parce que s'ils se rigidifient, tu auras beau manger tes aliments sources de tryptophane. Allez, on va dire que tu as bien fait tout ce qu'il faut pour tes intestins et tu as sécrété ta sérotonine puisqu'elle y est sécrétée à 85%. Mais tu es carencé en oméga-3. Ta terminaison nerveuse est rigide, ta sérotonine ne rentre pas dans la cellule nerveuse. Vraiment, la question de la sérotonine, c'est une poupée russe avec un tiroir. Alors, ça paraît énormément de choses à faire. Évidemment, on y va step by step. Mais manger juste du tryptophane, un aliment qui contient du tryptophane, ça n'a jamais suffi à avoir son taux de sérotonine.
Après la nutrition, place au sport. Dans le quatrième épisode avec Anouk Valette, elle a mis en avant le mouvement, influant à la fois la santé physiologique et mentale. Et le truc qui m'avait le plus surprise, c'était qu'on parle de sport comme médicament. Je vous laisse écouter un peu plus ce passage.
C'est un cercle vertueux, en fait.
Bien sûr, exactement. C'est vraiment quelque chose de très bon pour la santé physique, mais aussi la santé psychologique. Oui, oui.
En préparant l'épisode aujourd'hui, tu m'as même dit, quand on s'est parlé, le sport, c'est un médicament. Mm-hmm. J'ai trouvé ça fort à tel point que j'ai fait un peu de recherche et j'ai trouvé que l'activité physique est en fait une thérapeutique non médicamenteuse validée par la Haute Autorité de Santé. Il y a même une loi appelée le sport sur ordonnance, selon laquelle tous les médecins peuvent prescrire de l'activité physique. Et il y a même un fameux cardiologue français, François Carré, qui disait dans une interview qu'il prescrivait parfois de prendre un chien sur les ordonnances parce que les patients, comme ça, ils peuvent faire de la marche. Mmh. Et donc, il y a des vrais bénéfices thérapeutiques dans le sport, en fait, même pour ne pas mourir plus tôt, pratiquement.
Ah oui, oui, bien sûr. Le sport, il est très important, comme je disais tout à l'heure, pour bien vivre et pour bien vieillir. Et moi, j'ai plein de clients qui viennent me voir en début de séance et qui me disent « Oh, je me sens pas très bien, je suis stressée, ma journée s'est mal passée » ou des choses comme ça. On fait la séance, on adapte hein, de façon en fonction un petit peu de l'énergie de la personne. On va pas faire un truc parfois démesuré, mais ne serait-ce que bouger et faire une séance, on va se concentrer sur son corps et parfois même oublier sa journée. Bah, souvent, je reçois des messages après en me disant « Mais Anouk, merci beaucoup, je me sens beaucoup mieux, mais le sport devrait être remboursé par la sécu. » Donc oui, pour moi, ça, clairement, c'est un médicament, oui.
J'ai rencontré ensuite le docteur Curtet pour parler perte de poids dans le cadre de la sortie de son nouveau livre. Au cinquième épisode, j'ai donc appris que les muscles sont la clé de la perte de poids puisqu'ils sont fondamentaux pour brûler les calories. Quand ils se contractent, le muscle brûle du sucre, ce qui signifie que plus on a de muscles, plus on a une capacité élevée à brûler les calories au lieu de les stocker. En plus de ça, la contraction musculaire stimule la multiplication de mitochondries, ces petites centrales énergétiques, ce qui augmente donc la capacité de transformer les calories en énergie plutôt qu'en graisse. Et si tout ça n'est pas encore clair, plongez-vous dans cet extrait.
Le muscle est fondamental parce que quand il se contracte, il brûle du sucre. D'accord ? Donc, plus on a de muscles, plus on a une capacité de brûler les calories au lieu de les accumuler. Et pire, mieux que ça, en fait, on multiplie les centrales énergétiques des petites organelles qu'on appelle mitochondries, hein, grâce à elles on fait tout ce qu'on fait. Quand on bouge, quand on pense, quand on se répare, tout ce qu'on fait bouffe de l'énergie. Et cette énergie, elle est fabriquée à partir de nos carburants, donc le glucose, des acides gras, la glutamine pour les globules blancs. On fait un petit moteur moléculaire, l'ATP, d'accord. Et cette capacité de transformer les calories en énergie, qui est ce qui est bon pour nous, hein. L'énergie, c'est la vie, quoi. Eh bien, ça se fait grâce à ces mitochondries. Quand on ne fait pas d'exercice, on a un nombre de mitochondries très faible. Hein. Et plus donc on contracte ses muscles, plus on stimule la multiplication de ces centrales énergétiques et plus on est capable de transformer les calories en énergie au lieu de les transformer en graisse.
Avec le sixième épisode, la docteure Raza Fimbello est venue nous parler d'alimentation et d'immunité. Et là, je ne pensais pas du tout que les algues, c'était à ce point important dans notre alimentation. Elle en parle non seulement comme source d'iode indispensable pour toutes et tous, mais aussi comme alternative au sel. Et si vous aussi, ça vous surprend, voilà un peu plus d'informations.
Les algues, c'est nécessaire tout simplement. Ce n'est pas un aliment star, c'est nécessaire. Parce que on manque d'iode. Et ça... Depuis toujours. Enfin, je parle de la France, hein, où j'exerce. Et on a besoin d'iode. C'est un nutriment essentiel, comme beaucoup d'eau. Hein. Lorsque vous connaissez sûrement la T3 et la T4, qui sont les hormones thyroïdiennes. Bon, je pose la question à mes patients. C'est-à-dire T3, T4, ils savent bien que ce sont les hormones thyroïdiennes, parce qu'on leur mesure, etc. T3, ça veut dire 3 molécules d'iode. T4, 4 molécules. C'est tout simplement ça, hein. T4, c'est 4 molécules d'iode. Donc, le rôle central de l'iode, déjà, dans la physiopathologie, il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y a le sélénium, beaucoup de choses qui jouent là-dedans. Mais déjà, donc, si on manque d'iode, et qu'on sait qu'on manque d'iode. En France, en 1952, le gouvernement a décidé de mettre de l'iode dans le sel, le fameux sel Cerebos. Hein. Mais bon, maintenant, on sait que c'est plus possible de manger le sel, puisqu'on sait que maintenant, c'est vraiment un aliment pervers, donc il faut absolument essayer de trouver de l'iode.
D'autres sources,
voilà. Mm-hmm. Ils parlent de mettre, d'autres pays ont déjà mis ça en place, je ne sais pas en Allemagne ça s'est fait, de mettre de l'iode dans la farine.
Ah non,
mais il y a des pays qui ont fait ça. Mais seulement, tout le monde, moi, je mange pas ce pain-là, moi. Moi, je mange des pains particuliers. Mais pour dire que voilà. Donc, c'est vraiment une histoire, c'est à nous de... Alors, il y a beaucoup de... Là, par contre, je donne jamais de compléments d'iode parce que je trouve que c'est trop bête. Tout ce qu'on peut faire par l'alimentation, on doit le faire par l'alimentation. Et c'est pour ça que ça devient effectivement un aliment phare pour moi parce que l'iode, on peut l'avoir par l'alimentation. Si vous mettez un petit bout de kombu, c'est la plus riche. En iode, un petit bout régulièrement dans votre soupe, dans votre riz, vous avez suffisamment d'iode.
On continue avec ce qui vient d'être mentionné, la thyroïde, ce super organe. Et là, en lisant vos témoignages et en parlant avec Valérie Nguyen Van, j'étais forcée de constater que les femmes sont autant touchées par les troubles de la thyroïde et combien ces troubles passent inaperçus tout en impactant le quotidien.
Pour vivre, en fait.
Oui, pour travailler, parce que tu vas avoir, dans un cas comme dans l'autre, des problèmes de mémoire, de concentration. Donc, tu dors mal, tu n'es pas forcément de l'humeur que tu voudrais. Tu arrives au travail, tu n'arrives pas à assumer correctement ton travail. À côté de ça, au niveau hormonal, voilà, les règles ne sont peut-être pas comme il fallait. Tu peux avoir des problèmes de fertilité. Enfin, ça peut impacter vraiment le quotidien. Tu vas aux toilettes, ça ne se passe pas comme tu veux. Enfin, en fait, la thyroïde peut vraiment... devenir un enfer quand elle n'est pas équilibrée. Et comme je te le disais tout à l'heure, cet équilibre, il est propre à chacun. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de très très fin. Donc quelque chose qui peut paraître normal chez l'un, le même dosage hormonal chez l'autre ne donnera pas du tout la même chose. Effectivement.
Justement, j'ai interrogé un peu notre communauté pour savoir un peu s'il y avait des choses qu'elle vivait qui étaient similaires ou non. Et j'ai reçu quand même pas mal de témoignages, donc merci à celles qui nous ont répondu. Déjà, avec les réponses que j'ai reçues, le diagnostic a été fait entre 2 et 4 ans, ce qui est déjà pas trop mal, je trouve. Et souvent, les symptômes, en fait, ils ont été minimisés par les professionnels de santé au début, voire seulement attribué au stress, à la fatigue ou même au baby blues. Tu disais la dépression tout à l'heure. La personne, en fait, on lui a dit que c'était normal après un accouchement et qu'une femme, ça se plaint tout le temps. Une autre qui raconte qu'en insistant auprès de son médecin, on lui aurait dit qu'il faudrait qu'elle arrête de regarder les infos et que ça servait à rien de faire autre chose que de prendre du Levothyrox. Bref, du coup, c'est pas facile en fait de savoir ce qui se passe dans son corps si on sent qu'il y a un truc qui cloche, qu'il y a quelque chose qui va pas et qu'au final on met ça de côté. On peut parler peut-être même de troubles invisibles. On parle de plus en plus d'endométriose. Avec Hélène Thierry, on n'a pas traité le sujet qu'en surface. Depuis l'épisode 8, je me remets toujours pas qu'on puisse trouver de l'endométriose ailleurs que dans l'utérus et surtout aussi chez les hommes. Extrait.
Mais on parle aussi d'adénomyose, qui est aussi une partie où les cellules de l'endomètre se sont fixées à l'intérieur du muscle de l'utérus. Et on trouve aussi de l'endométriose dans le cerveau d'un homme. On a trouvé sur de la napate de l'endométriose dans le cerveau d'un homme. Ce qui veut dire que ça ne touche pas que les femmes Et donc, ça ne peut pas forcément venir que de l'utérus.
Ouais. Donc, ça vient d'autre chose.
Donc, ça vient probablement d'autre chose. On sait que dans chacune de nos cellules, on a le programme génétique pour fabriquer toutes les cellules du corps. Et même les hommes ont, dans le programme génétique, dans leurs cellules, aussi le programme génétique qui permet de fabriquer ces cellules de l'endomètre. Donc, régulièrement dans notre corps, il y a des ratés. Moi, je pense que probablement, il y a des moments où il y a des cellules de l'endomètre qui doivent se fabriquer à des endroits anormaux dans notre corps et qui vont pouvoir se développer parce qu'elles ont de la nourriture. Et ce qu'on a remarqué, c'est que toutes les personnes qui ont de l'endométriose ont une inflammation chronique. Et c'est vrai que ces cellules vont être friandes de tissus qui sont inflammatoires, qui permettent de les nourrir de sang.
On passe maintenant à l'épisode 9 avec Evie Poulard. J'avais beaucoup de questions car ça traitait un sujet que je connaissais peu, c'était la ménopause. Et là, tout le long de l'épisode, je découvre un florilège de symptômes dont on n'a jamais entendu parler. Extrait.
On a parlé des plus courants, mais effectivement, bah, il y a tellement de symptômes que parfois, bon, on ne les relie pas à la ménopause. Donc, notamment, il peut y avoir une sécheresse au niveau salivaire qui s'installe. Une sécheresse, alors on parle beaucoup de sécheresse des muqueuses, notamment la sécheresse, je vais y arriver, vaginale, mais on oublie que ça impacte toutes les muqueuses. Donc, on peut avoir aussi une sécheresse oculaire, une sécheresse au niveau nasal aussi, et ça, on y pense moins. On peut avoir aussi une langue aussi qui brûle, une langue qui gonfle un peu. Donc, un symptôme très, très bizarre, l'oreille qui gratte.
Ah oui.
Faut savoir, en fait, qu'on a des récepteurs aux œstrogènes partout dans le corps. Donc, cette baisse hormonale peut impacter beaucoup de parties du corps. Perte d'équilibre aussi qui peut arriver. Il y a aussi beaucoup de récepteurs au niveau de l'oreille interne. Donc voilà, il y a des symptômes comme ça. Et puis ce sont pas des symptômes bizarres, mais les troubles digestifs, en fait, on les relie pas non plus à la ménopause, mais ça va s'accentuer aussi à la ménopause.
C'est dans l'épisode 10 que j'ai eu un long échange avec Marion Kaplan, où on a pu aborder le microbiote. Je suis repartie avec l'information que notre microbiote est malmené par l'alimentation moderne à cause du sucre, du gluten, des produits ultra transformés. Mais le microbiote de la terre et la mer est lui aussi changé. Je vous laisse écouter pour en savoir un peu plus.
Claude Bourguignon,
oui.
Nous ne faisons plus de culture en Europe. Nous essayons de maintenir vivantes des plantes qui ne demandent qu'à mourir tellement elles sont malades.
C'est ça. Et le sol qui a son propre microbiote, et donc que ça soit le microbiote de la terre ou le microbiote de la mer avec le plancton, etc., on est en train de tellement bouleverser, détruire ces microbiotes qui doivent être bourrés de vers de terre, bourrés de champignons. Il y a tout un écosystème dans la terre qu'on est en train de détruire. Parce qu'avant, on avait les composts, on faisait de la permaculture, et l'INRA a mis en alerte il y a déjà quelques années en disant « Attention, nos légumes ne contiennent plus d'endobiotes. Les graines commencent à être stériles. » D'accord ? Et l'endobiote, ce sont ces mycorhizes à l'intérieur de la cellule de votre légume qui va nourrir votre microbiote. Donc si vous pensez vous nourrir avec des légumes qui vous donnent autre chose que des fibres, mais il n'y a plus rien dedans.
Ça fait peur.
Ben oui, ça fait peur parce qu'il est temps de réagir.
Ouais.
Avec Camille Herman, j'ai découvert le concept de dermonutrition. Spécialiste du sujet, on a abordé l'épisode 11 avec une idée très simple qui m'est restée tout le long des autres sujets de santé en général. Si on veut être bien de l'extérieur, il faut d'abord s'occuper de l'intérieur, que ce soit pour la peau, pour l'énergie, pour être disponible pour les autres. Peu importe, l'important c'est de prendre soin intérieurement. Elle utilise d'ailleurs une métaphore pour illustrer cette idée qui m'a beaucoup plu.
Moi, je parle souvent de voiture. Ah, de voiture. Pour parler de dermonutrition, parce que moi, j'adore les cosmétiques. Je viens de cet univers, c'est fabuleux. Jamais je te dirais les cosmétiques ne servent à rien. C'est pas vrai. C'est utile. Ça protège, ça nourrit, ça embellit. C'est un bon complément à l'alimentation. Ce que je refuse de dire et d'entendre, c'est les cosmétiques, ça sauve tout. Il faut commencer par la base. Et la base, c'est à l'intérieur. C'est l'alimentation. Mais aussi la gestion de ton stress, le style de vie, ça, on pourra en reparler. Mais en tout cas, l'alimentation, c'est tout simplement le carburant. Si t'as une voiture, tu vas la peindre, tu vas choisir la protection, tu vas choisir les roues. C'est les cosmétiques. C'est super, elle va être bien entretenue, bien protégée, très belle. Mais si tu n'as pas d'essence, ta voiture ne roule pas. Et c'est là où la dermonutrition agit. La dermonutrition, c'est littéralement l'essence de ta voiture. Donc on va commencer par mettre de l'essence dans une voiture, avant de penser, si tu veux, à la protéger, à rajouter des choses à l'extérieur, qui auront leur intérêt, mais on va commencer par l'essence à l'intérieur pour que ça fonctionne bien.
On passe ensuite à l'épisode 12, qui était pour moi, en tant que femme, très instructif. Anaïs Cohen nous aidait à mieux comprendre son cycle, mais aussi un petit peu plus sa fertilité. Et là, un mythe s'est brisé pour moi. Ce n'est pas parce que vous avez vos règles que vous êtes automatiquement infertile. Elle explique que des femmes peuvent avoir une ovulation précoce et donc l'arrivée des règles n'est pas une garantie, comme quoi il faut vraiment connaître son cycle en détail pour correctement évaluer le risque de grossesse. Elle vous en dit plus.
Si on souhaite utiliser la sartothermie comme contraception naturelle pour éviter une grossesse pendant la phase des menstruations, eh bien, il faut te former pour savoir est-ce que je suis vraiment infertile pendant mes menstruations ou pas. Parce qu'il y a des femmes qui sont fertiles pendant leurs règles.
Parce que l'ovulation continue ?
Parce que l'ovulation est précoce, en fait. On va appeler une ovulation précoce si elle arrive avant le jour 12, en fait. Et du coup, si on ovule de façon précoce, eh bien, on est fertile de façon précoce, c'est-à-dire plus tôt que la moyenne. Et donc, on peut tout à fait être fertile pendant ses menstruations.
Ok, donc ce n'est pas un signe pour dire... Parce que des fois, on prend les menstruations, on dit « Ah, j'ai mes règles, c'est bon, l'ovulation est passée. »
Ouais, exactement. Souvent, on se dit « Ok, j'ai mes règles, donc l'ovulation était il y a 2 semaines, c'est pas toujours le cas. Et la prochaine ovulation sera dans 2 semaines, c'est pas toujours le cas. » Et donc, il y a vraiment besoin de comprendre son cycle pour savoir « Ok, est-ce que je suis en danger ou en risque d'avoir une grossesse non désirée ou pas ?» Et ensuite, ça peut aider, cette information peut aider justement certains couples à se dire « Ok, bah du coup, en fait, avant, on n'avait pas de rapport pendant les menstruations parce qu'on ne savait pas trop. Maintenant qu'on comprend, on peut le faire. Ou au contraire, pour d'autres, c'est « Attends, on le faisait avant parce que je croyais que... » Mais en fait, peut-être que non. Donc, on va réévaluer ce risque et éviter.
Avec Élise Gilmore, j'ai vraiment gardé cette idée à la fois de tester, d'expérimenter, mais aussi de ne pas baisser les bras, de toujours chercher les causes de son mal-être et de bien se faire accompagner. Alors bien que cet épisode 13 était centré sur l'adoption de l'alimentation anti-inflammatoire, ce message-là, il concerne tout le monde.
Ça a eu énormément de bienfaits dans ma vie. Quand je vois que ma maladie se calme, mes symptômes se calment, que je retrouve une relation qui est saine avec l'alimentation... Je redécouvre les aliments, je les comprends. Voilà. je suis tellement plus heureuse qu'avant. Donc pour moi, ça a réellement eu... ça a vraiment changé ma vie, honnêtement. Après, ça ne veut pas forcément dire... Je ne vais pas te garantir que toi, ce sera pareil. Parce qu'en tous les cas, on est différentes. Je pense que ça vaut le coup d'essayer. Ça, c'est vraiment mon message. On essaye. Et encore une fois, par exemple, pour le gluten, pour ce qui crée de l'inflammation, il faut se donner du temps. Souvent, des fois, on essaie une fois, oui, ben, ça ne marche pas ton truc. Et c'est plus longtemps. Peut-être que tu verras.
L'épisode 14 était consacré aux compléments alimentaires, un sujet vaste qu'a abordé William Cadmiri et où on a parlé surtout des carences les plus courantes. Or, si les carences sont fréquentes chez les adultes, imaginez les carences que peuvent avoir les enfants qui mangent la même chose que les adultes, voire moins bien. Je vous laisse écouter ce passage sur la santé des enfants qui m'a vraiment donné envie de faire un épisode sur le sujet.
C'est très facile, la vitamine D. C'est quelques gouttes par jour. Ça coûte rien. Ça devrait faire partie des manuels scolaires.
Mais c'est même automatique. On la connaît, par exemple, en supplémentation pour les nourrissons. Pourquoi on ne supplémente plus après, après que les enfants aient grandi ?
Tu poses une très bonne question.
Bah, on le connaît comme ça. C'est comme ça que...
Tu poses une très bonne question. Regarde, pourquoi les adultes prennent des compléments alimentaires mais n'en donnent pas à leurs enfants ? Pareil.
Dans le sens inverse, ouais.
Ouais, mais c'est pareil. Dans le sens inverse, exactement. Les parents qui ont des carences en iode, les enfants mangent la même chose que les parents, voire moins bien généralement. Moi, je le vois avec mes filles, elles sont plus difficiles pour manger tel ou tel aliment. Donc, je sais que potentiellement, elles ont encore plus de déficiences que je pourrais en avoir, même avec une alimentation qui serait à peu près optimale. Les parents qui supplémentent, pensez aussi à vos enfants. Ils ont besoin de vitamine D, ils ont besoin de magnésium, ils ont besoin d'autre chose.
On continue à apprendre et à élargir son vocabulaire avec l'épisode 15 sur la santé des cheveux. Malika Lemzili-Costil a mentionné un terme intéressant pour moi que je n'avais jamais entendu. C'est celui du concept de skinification du cheveu. Ça désigne en fait la tendance à prendre soin de son cuir chevelu avec autant de rigueur que de sa peau et notamment celle du visage. L'idée principale est que le cheveu pousse sur un terreau fertile et qu'un cuir chevelu sain est essentiel pour avoir des cheveux en bonne santé. Voilà, ça illustre bien qu'avant, le cuir chevelu était un peu le dernier soldat de la routine de soins, mais que maintenant, on voit qu'il est devenu le centre de l'attention.
Et après, dans les tendances, donc moi déjà, ce que j'ai observé, c'est que les gens prennent beaucoup plus soin d'eux. Donc moi, je le date au niveau du Covid, à l'ère post-Covid, oui, où en fait, il y a eu les coiffeurs ont fermé, donc on a été privés de coiffeurs, et il y a eu vraiment un mouvement de réappropriation de son cheveu dans le soin, qu'on déléguait souvent aux coiffeurs qui nous disaient, qui prenaient soin de nos cheveux. C'était vraiment le coiffeur. Et donc, il y a eu un mouvement comme ça de je suis seule face à moi-même. Donc, je vais finalement aller dans ma salle de bain et voir avec quel produit fait sens par rapport à mon besoin. Enfin, on a un peu utilisé ce qu'on avait sous le coude. Il y a eu les cures de sébum, souviens-toi, pendant le... Donc, il y a eu des expérimentations capillaires, mais aussi, on s'est mis à écouter... des influenceurs, des influenceuses, nous parler de cheveux, nous parler du soin cheveux. Et il y a eu vraiment une explosion même des personnes qui s'expriment sur le sujet capillaire et un boom des produits capillaires parce que les gens se sont réappropriés, ont repris le pouvoir, entre guillemets, sur leur chevelure, à commencer par le mouvement Curly Hair qui a vraiment explosé aussi post-Covid avec des marques, pour ne pas citer de nom, qui ont explosé. À ce moment-là, parce que il y a eu cette envie, cet élan, et finalement, on n'a pas eu vraiment le choix que de se dire, je vais devoir m'occuper moi-même de mon cheveu. Donc ça passe par un moment de réapprivoiser en fait sa chevelure. Et quand on a les cheveux bouclés, texturés, ça demande quand même une certaine connaissance, une certaine expertise. Il y a une montée, Donc ça, c'est une autre tendance, le fait de prendre soin de ses cheveux. Et puis après, il y a ce qu'on appelle la skinification, qui est une tendance qui consiste à prendre soin de son cuir chevelu comme de sa peau. Ah. En fait, on a commencé à comprendre en se disant « Ah ben oui, mais en fait, le cheveu pousse sur un cuir chevelu, qui est la peau en fait, du crâne, oui. C'est celle qui protège la tête. » Et on était très obsédés sur les skincare routines, le visage. Mais disons que le cuir chevelu, il était un peu le dernier, le dernier soldat. Et là, on commence à prendre conscience de manière très forte que en fait, le cheveu pousse sur un terreau fertile, sur un cuir chevelu sain, que tout commence à la racine, plus qu'à la racine, donc dans le follicule, comme je te le disais. Donc c'est ce qu'on appelle la skinification, c'est un terme, je m'arrête là parce que je vais encore en parler.
J'ai au moins appris quelque chose, je connaissais pas ce nom derrière cette tendance-là.
Avec Alice Monet, on a parlé fertilité. Pour moi, l'épisode 16, c'était un épisode avec un grand passage sur la démystification autour de l'infertilité. En plus de ça, ça m'a vraiment permis de retirer l'aspect culpabilisant chez les femmes dans les cas d'infertilité. Écoutez ça.
Selon le rapport de l'INSERM, en 2012, l'infertilité viendrait à la fois du côté féminin à 30%, des hommes aussi de 30%, les deux combinés 30% aussi, et seulement 10% inexpliqué. On entend même dire que le spermatozoïde serait plus en cause que l'ovocyte. Est-ce que tu es d'accord ?
Oui, alors si tu veux, l'idée, c'est pas de dire qui est le plus coupable, mais les chiffres de l'INSERM sont tout à fait criants de vérité, c'est-à-dire que l'infertilité, c'est des causes, et la fausse couche sont des causes partagées. Et on sait aujourd'hui que la qualité du spermatozoïde, son ADN, l'âge du père aussi, tout ça, ça compte énormément, et ça peut conduire à des fausses couches. C'est pour ça que, déjà, il faut que enlever cette idée que c'est le corps de la femme qui serait responsable. Et puis, c'est aussi un bon moyen d'impliquer l'homme dans le projet.
On repasse sur le sujet du sport avec l'épisode 17. Et là, avec Alban Colo, on a bien insisté sur l'importance des muscles et de la force dans le cadre de la longévité et du bien vieillir. Mais il a rapporté les propos de Myriam Okel qui m'ont choquée. De retour à Berlin, je me suis empressée de mettre mes collègues à l'épreuve dans un petit quiz. Alors vous, vous restez combien de temps suspendu sur les bras sans toucher par terre ?
Il y a des tests qui sont assez faciles à mettre en place. Et il y a quelques mois, j'ai assisté à une conférence de Myriam Okel, qui est coach sportive et également spécialisée en micronutrition. Elle faisait une conférence sur le lien entre santé mentale et muscles. On y reviendra dans le podcast. Je trouve que c'est important de dire à chaque fois d'où viennent nos sources et de citer les gens. Parfois, ce n'est pas toujours le cas. Donc, Myriam avait dit deux tests. Le test de la suspension.
Okay.
C'est-à-dire, tu viens te suspendre à une barre de traction. Et bras tendu, tes pieds ne touchent. Les pieds ne touchent pas le sol. Et il faut que tu restes suspendu le plus longtemps possible.
OK. Genre Fort Boyard, il ne faut pas que je tombe dans l'eau.
Ouais, et bras tendus.
OK.
Et à ton avis, il faudrait que tu restes combien de temps à peu près pour être en bonne santé?
Bah, moins d'une minute peut-être, quelque chose comme
alors,
ça.
Il faudrait que tu sois au minimum une minute, voire une minute trente.
Ah ouais, c'est long.
Ouais, c'est long. Et ça, c'est le premier test.
Ok.
T'en as un autre, c'est le test de porte de charge. C'est-à-dire, t'imagines que tu vas avoir deux poids de chaque côté de toi, donc à gauche et à droite, voilà, comme si tu voulais soulever pour porter deux packs d'eau.
Mm-hmm.
Eh bien, on va voir combien de temps tu vas être capable, enfin, pardon, pas combien de temps, mais quelle charge maximale tu vas pouvoir tenir dans tes mains pendant une minute. D'accord ? Et à ton avis, pour être considéré en bonne santé et se dire « j'ai pas besoin de faire du renforcement musculaire », il faudrait que...
Combien de packs d'eau, c'est ça ?
Ouais, alors j'ai pas forcément l'équivalence en packs d'eau, mais en poids, par contre, je pourrais te dire la totalité dans tes deux mains, combien il faudrait que tu portes ?
Bah, en valise, pour une minute, sur les deux, je peux faire peut-être plus de 15 kilos.
Ok.
Je pense. Marche. Pour une minute, c'est bien. Mais en marchant, on... Juste en les tenant. Ouais, je dirais entre 15 et 20.
Ok. Je suis capable de me redresser et de les tenir à bout de bras pendant une minute. Je te prends mon exemple.
Ouais.
Du coup, je fais environ 75 kilos.
Mm-hmm.
Eh bien, pour être considéré en bonne santé, il faut que je sois capable de soulever en totalité mon poids de corps. Donc, c'est-à-dire entre 35 et 40 kilos dans chaque main et tenir pendant une minute. Si tu ne réponds pas à ces deux tests de façon favorable, et ben, ça veut dire qu'il faut faire du renforcement musculaire.
Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ok. Bon, ben, je pense que tu as convaincu beaucoup de personnes parce que je connais peu de personnes qui prend 75 kilos ou 75 litres d'eau dans les deux bras pendant une minute.
Ouais.
C'est énorme.
Donc, on remercie Myriam pour les deux tests. Si elle regarde le podcast, je suis sûr qu'elle appréciera.
Bien que Marion Kaplan en avait déjà parlé du jeûne dans l'épisode 10, j'avais quand même beaucoup de questions dans l'épisode 18 sur le sujet, surtout que je connais personne qui en fait ou qui en a fait. Ce qui est intéressant, c'était de découvrir les effets bénéfiques potentiels du jeûne. On écoute Marc Lanor qui nous en dit plus. Tombé sur le documentaire d'Arte il y a déjà quelques années, le jeûne, une nouvelle thérapie. Il y en a beaucoup qui l'ont déjà vu quand j'en parlais autour de moi, qui explorait pas mal de choses, notamment l'impact des cétones sur la mémoire, le lien avec les maladies chroniques, l'amélioration de l'immunité contre le cancer. On a l'impression qu'on peut citer quelques effets bénéfiques connus et il y en a encore qui sont moins connus en lien avec le jeûne. Il y a un des effets qui est souvent mentionné, c'est cette idée de nettoyage et d'autophagie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ça veut dire et dans quelle mesure c'est validé scientifiquement ?
Alors déjà, ce que je peux dire, c'est que d'après mon expérience et on va dire mes explorations, je peux te dire que... dans différents endroits, et notamment chez...
En Allemagne ?
Buchinger.
Buchinger, oui. Donc,
il y a une clinique en Espagne de Buchinger. Je me demande si c'est remboursé en Espagne. J'ai oublié il y a une clinique en Espagne de Buchinger et je me demande si le remboursement est total ou partiel, etc. Mais il faut savoir que dans les différents endroits où on peut jeûner, en Europe, on va dire, en France, y compris en France, etc., on peut jeûner, lorsqu'il y a des témoignages officiels des gens, on voit... mon épilepsie a disparu, ma goutte a disparu, j'avais du mal à lire parce que mes yeux étaient complètement... J'avais une conjonctivite, etc., des problèmes de yeux, ptérogyre, problèmes de membrane rétinienne, etc., qui, au niveau des yeux. Au niveau des problèmes d'ulcération, donc les missies, hein, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les ulcérations, ça peut commencer... au niveau de l'œsophage, de l'intestin, du duodénum, et puis des intestins, cet intestin grêle et du gros intestin, du côlon. C'est terrible parce que c'est surtout en bas, au niveau des intestins, c'est terrible parce que les ulcérations s'ouvrent et à ce moment-là, il y a un saignement. Et ce saignement n'est absolument pas contrôlable. Ça peut durer 10 minutes, un quart d'heure, ça peut durer plusieurs heures. Il y a eu plusieurs personnes qui sont venues me voir pour que je leur conseille un régime alimentaire. Et je ne vais pas rentrer trop dans les détails, ça va prendre du temps, mais c'est une terrible maladie. Et il faut savoir que toutes les personnes qui sont atteintes de ces maladies je ne parle pas du côlon irritable, hein. Je parle vraiment des ulcérations de l'intestin. Toutes ces personnes, avec le temps, finissent par faire un régime alimentaire draconien. Parce qu'ils savent que s'ils prennent de l'alcool, ils auront droit à des saignements. S'ils prennent du vinaigre, des produits acides, ils auront droit à des saignements. S'ils prennent certains types d'aliments, ils ont droit aussi à des saignements. Donc, ils sont dans un régime assez restreint parce que ça leur donne la garantie. Ils ont compris. Alors, c'est très amusant. C'est un peu comme les marathoniens. Ils comprennent de façon empirique quels aliments il faut prendre et quels aliments il ne faut pas prendre. Donc, c'est un régime sur mesure, maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Donc, ce sont des faits, des témoignages, moi, que j'appelle expérimentaux, qui sont réels, simplement ils ne se déroulent pas dans une clinique, ils ne se déroulent pas dans un hôpital, ils ne se déroulent pas dans un laboratoire de recherche, mais ça n'empêche que ce sont des témoignages qui sont signés par des personnes réelles et elles ont des améliorations absolument extraordinaires.
Et puis l'épisode 19 m'a vraiment confortée dans ce que je savais déjà sur les plantes adaptogènes. Ces plantes s'adaptent à notre terrain. Donc ça veut dire qu'une même plante peut être stimulante si vous en avez besoin ou apaisante si votre corps demande à être ralenti. On écoute Aurore Houdard qui explique ce concept plus en détail.
La plante adaptogène n'engendre pas de toxicité. Elle va, je dirais, ne pas déréguler les fonctions qui sont déjà en équilibre. Mmh. Ce qui va être vraiment fort sur la plante adaptogène, c'est qu'elle va s'adapter à vous, à votre terrain. Par exemple, si vous avez besoin d'être stimulé, une plante sera stimulante. Par contre, si vous avez besoin d'être un petit peu ralenti, apaisé, eh ben, cette même plante saura le voir et apaisera.
C'est vraiment une plante. La plante, c'est le modulateur interne un peu de son stress ou de son énergie.
Ouais, totalement. Elles ont ces capacités-là qui sont absolument, absolument fabuleuses.
Et nous voilà déjà arrivés à cette 20e et dernière chose que j'ai appris cette année. Et en parlant de tous ces sujets comme la lumière au réveil, comprendre ses cycles menstruels, prendre soin de son cuir chevelu, de la santé de ses enfants ou encore du rôle fondamental de nos muscles, ce sont des sujets hyper variés et complexes, mais tous se rejoignent sur un point qui est pour moi essentiel, la santé. C'est pas un sprint, c'est un marathon qui se fait à petits pas. Personne ne nous demande de jeûner, là, si ça ne nous convient pas, de devenir un athlète olympique du jour au lendemain. La vraie différence, moi je la vois au fil des années où j'ai passé à potasser plein de sujets, elle se fait dans les micro-décisions répétées jour après jour. Et pour mieux prendre ces décisions, il faut simplement prendre le temps d'écouter son corps et prendre soin de soi encore et toujours avant de prendre soin des autres. Alors, quel petit pas ferez-vous demain ? Merci encore pour cette année splendide. Je vous promets de revenir l'année prochaine avec encore plus de sujets passionnants et avec les meilleurs experts francophones. Si vous avez le temps, dites-nous en commentaire le podcast qui vous a le plus aidé. Ça permet aux autres de s'y intéresser. Je vous laisse profiter de vos proches. Et avant de vous quitter, n'oubliez pas de prendre soin de vous avec Sonde Naturelle.